Ça peut pas faire de mal. Tous les samedis sur France Inter, à partir de 18h.
Toujours un peu énervé quand on me parle de l'aspect psychologique de mes romans en me disant que c'est des romans psychologiques.
Laurent Mauvignier.
C'est des romans entre autres avec de la psychologie, ça je suis bien d'accord, mais pour moi il y a quelque chose de plus essentiel qui se joue que simplement des questions d'état d'âme. Il y a un rapport à la vérité, il y a un rapport à comment on peut être au monde, comment on peut dire notre façon d'être au monde.
Ça peut pas faire de mal.
Et ce décalage qu'il y a, pour moi c'est il y a une sorte de douleur indépassable dans le fait qu'on ne pourra jamais faire coïncider notre ressenti et notre possibilité de dire ce ressenti. On n'arrivera jamais. Ce ressenti, il est inexprimable. Et on n'arrivera jamais à dépasser le fait qu'il soit inexprimable. Et pour moi, celle d'écriture, elle va chercher dans cet endroit-là.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal. La veille, Samuel et Sybille se sont endormis avec les images des chevaux disparaissant sous les ombelles sauvages et dans les masses de fleurs d'alpage. Les parois des glaciers, des montagnes, les nuages cotonneux. La fatigue dans tout le corps et la nuit sous les étoiles sur le sommet d'une colline formant un replat idéal pour les deux tentes. Et puis au réveil, lorsque Sybille sort de sa tente, une poignée d'hommes se tient debout et la regarde. Il lui faut 3 secondes pour les compter, ils sont 8, et 1 seconde de plus pour constater que les 2 chevaux sont encore à quelques mètres, là où on les avait laissés hier soir. Samuel se lève à son tour, il ne comprend pas tout de suite. Il regarde sa mère, et à l'agressivité qu'il reconnaît dans la voix des Kirghizes quand ils se mettent à parler, à questionner en russe, et surtout parce qu'à sa façon de répondre, il voit que sa mère a peur, il se dit que la journée commence mal. On n'a pas le temps de se dire qu'on peut mourir ici, dépouillé et balancé dans un fossé au pied d'une montagne, qu'ils peuvent nous traîner plus loin et nous abandonner agonisants parmi les pierres et les ronces. Oui, pas le temps de se dire qu'on peut se faire tuer par des sales gueules qui puent l'alcool et la crasse. Soudain, le chef jaillit le premier. Il bondit sur Sybille pendant que 2 autres essaient de sauter sur Samuel. Sybille s'est retournée et tient fermement sa cravache. Elle cingle le visage du chef de bande. Samuel frappe les 2 types à coups de poing. Les chevaux reculent. Ils vont s'enfuir. Les autres essaient de les saisir, mais ils se cabrent et hennissent en tambourinant sur le sol. Les fers claquent sur la pirogue. La poussière monte, jaune, fine. Des particules dansent autour des corps. Le temps de l'attaque passe en un éclair. C'est par cette scène digne d'un western que s'ouvre Continuer, le magnifique roman initiatique de Laurent Mauvignier. Il a pour principal décor le Kirghizistan, petit pays au paysage à couper le souffle, coincé entre la Russie et la Chine. Fort heureusement, nos 2 protagonistes, Sybille, la mère, et Samuel, son fils, seront bientôt sauvés par des nomades plus accueillants que ces patibulaires voleurs de chevaux. 3 semaines plus tôt, face à la dérive délinquante de son fils, Sybille a eu cette idée un peu folle, lui proposer un périple à cheval vers l'inconnu, le voyage de la dernière chance. Petit à petit, le pari de l'ouverture à l'autre que fait Sybille porte ses fruits et notre jeune héros finit par accepter de voir en étranger autre chose qu'une menace. Délesté du poids de l'angoisse, il se relie d'une manière inédite aux autres et peut enfin devenir un homme. C'est tout le sens de ce voyage initiatique qui propose au passage une réflexion profonde sur la peur et l'ignorance comme fondement de la haine raciale. Au cœur du livre également, les affres de la parentalité, une aventure palpitante et vertigineuse dont personne ne possède vraiment la carte. Et l'amour maternel, bien entendu, auquel l'auteur rend un très bel hommage. Enfin, le voyage est évidemment une métaphore de la vie. Face à la perte, au danger, à la douleur, à l'inconnu qui nous effraie, il faut continuer, comme le disait Samuel Beckett, à qui l'auteur emprunte les derniers mots de l'innommable. Paru aux éditions de Minuit en 2016, Continuer sera porté sur nos écrans par le réalisateur Joachim Lafosse le 23 janvier prochain. Mais revenons en arrière et découvrons l'événement qui a déclenché cette aventure hors du commun. Depuis la séparation de ses parents, Samuel vit seul à Bordeaux avec sa mère. Adolescent mal dans sa peau, il vit cloisonné dans son monde, les écouteurs vissés en permanence sur les oreilles. Depuis quelque temps, il a tendance à déserter le lycée et fréquente un petit groupe de skinheads. Un soir, accompagné de 2 d'entre eux, il se rend en voiture à une fête où se trouve Vyosna, la seule fille du lycée qui lui plaît, mais la soirée finira mal. Malgré la musique à fond, Samuel sent le téléphone qui vibre dans sa poche. Il le prend, regarde, Le range ostensiblement, il capte le sourire moqueur d'un de ses copains. Oui, évidemment, c'est sa mère. Il se sent rougir, il esquive en balançant n'importe quelle vanne et s'empiffre d'une poignée de cacahuètes. Vyosna danse avec ses copines. Elles sont entourées de garçons qui les regardent, font des tentatives d'approche. Samuel et ses deux copains les regardent de plus loin. Ils détonnent un peu. Ils ont l'air vaguement de skinhead, quelque chose d'approchant, mais ils sont sans doute trop maigres. Quelque chose ne fait pas vraiment peur dans leur façon d'être, même s'ils sont différents de cette bande de lycéens. Tous des petits bourgeois du centre-ville de Bordeaux, des fils à papa. Samuel et ses copains sont un peu les voyous de la soirée. Ils feront tout pour ne pas démériter. Finalement, l'un des copains de Samuel se fait une place parmi les danseurs à coups d'épaule et de coude et se dirige vers Vyosna. Arrivé près d'elle, il lui adresse la parole. Il est le plus vieux, l'un des seuls à conduire. Il lui parle. Elle ne l'entend pas à cause de la musique, alors elle arrête de danser. Elle l'écoute, et bientôt elle commence à rire. Samuel et l'autre copain regardent sans rien faire. Et puis ils assistent au moment où Vyosna se laisse entraîner. Elle a dansé, elle a ri, ils ont bu. Maintenant le couple monte à l'étage. Entre-temps, Samuel et l'autre ont squatté la cuisine. Ils ont vidé des bouteilles, sont revenus au salon, ont balancé des mégots sur les tapis, brûlé plus ou moins volontairement le cuir d'un canapé. Lorsqu'ils reviennent vers la piste de danse, le couple n'est plus là. Samuel et son pote décident de monter pour le retrouver. L'étage est vaste, presque personne. La musique s'engouffre dans la maison, elle vibre de partout et s'étouffe toujours un peu plus au fur et à mesure qu'on s'éloigne, traversant le couloir et laissant les pièces, chambres, salles de bain, buanderies, chiottes, bureaux, les unes après les autres, et enfin la chambre des parents. Le couple est debout à l'autre bout de la chambre. Vyosna adossée à la fenêtre, le type est face à elle, serré contre elle. Il est en train de l'embrasser dans le cou, ses mains lui plottent les fesses. Vyosna sursaute quand elle voit les deux autres entrer dans la chambre et se met à gueuler lorsqu'elle comprend qu'ils n'ont pas l'intention de repartir. Qu'est-ce que vous foutez là? Barrez-vous! Mais lorsque l'autre se retourne pour regarder ses deux copains, il ne leur demande pas de partir. La situation le fait rire, surtout lorsque l'autre copain approche et veut les rejoindre contre la fenêtre. Samuel, lui, reste collé à la porte. Il n'ose pas avancer. Il ne peut pas. Il se contente de voir comment son pote rejoint le couple, comment la fille essaye de se dégager, comment elle se met à gueuler de plus en plus fort, sa voix au départ presque amusée, incrédule, puis troublée, tremblante, quand les deux gars la touchent, quand le deuxième pose la main sur son sein, et puis agacée, comme brûlée, lorsqu'elle fait dégager sa main en se débattant. Mais le premier rit encore davantage et ne la défend pas, non. Il s'étonne et s'offusque maintenant. Qu'est-ce que ça peut lui foutre à cette petite conne qu'on soit deux ou trois à la tripoter? Hein, tu aimes ça? Samuel regarde et n'ose pas avancer. Il n'ose toujours pas. Il ne sait pas pourquoi. Enfin si, il sait. C'est qu'il aimerait bien être à la place des deux autres garçons, mais aussi qu'il aimerait être seul avec Vyosna. Et ce qui se passe, il le regarde en se mettant à rire. Il rit de plus en plus fort et allume une clope en tremblant. Et pendant ce temps où il cherche un briquet, ses clopes, pendant qu'il regarde sa cigarette, il ne voit pas vraiment ce qui se passe. La voix de son copain résonne à ses oreilles. Il n'ose plus lever les yeux. Il entend « Allez, sois pas conne, qu'est-ce que ça peut te foutre ? On s'amuse, on rigole. » Et elle, dont la voix devient plus forte, crie, supplie. Mais l'un des deux types gueule plus fort encore. « Sam, Sam, ferme cette putain de porte, merde !» D'un coup de pied sans réfléchir, Sam ferme la porte. Maintenant, il rit et regarde au plafond. Il est trop saoul. Il pense à sa mère qui doit l'attendre. Il pense qu'il va se faire engueuler demain. Et dans sa tête, les souvenirs et les images tournent. Mais soudain, il sursaute à cause des claques, des gifles, des halètements, des murmures, des bruits de vêtements qu'on déchire, des corps qui s'agrippent, craquent, la voix bâillonnée de la fille, et puis un cri plus fort. Et Vyosna qui se libère, se jette sur Samuel. « Pousse-toi! Arrache-toi, connard !» Et il ne sait pas comment ça arrive. Voilà, elle le bouscule, le griffe au visage. Il est surpris. Il voudrait la retenir et lui dire que ce n'est pas grave, il ne peut pas. Les mecs ordonnent, s'agacent. « Retiens-la, mais retiens-la, Trouduc !» Alors elle sort et elle crie. Bientôt la fête va s'arrêter. Ils vont tous s'étonner, se mettre en colère, avoir peur, crier encore, s'énerver, hurler, parlementer. Les lumières vont s'allumer, la musique s'arrêter et la soirée sera terminée. Après cette funeste nuit qui s'achève au poste de police, il devient urgent pour Sibyl d'amener son fils vers d'autres rives. Vyosna a réussi à s'échapper à temps, si on peut dire. Et Samuel est finalement libéré par les policiers. La mère et son fils sont secoués, mais ne parviennent pas à se parler. Alors Sibyl organise un conseil de famille exceptionnel, au cours duquel elle invite Benoît, le père de Samuel, et défend son idée de voyage. Lorsque Samuel nous restitue cet échange entre ses parents, lui-même paraît indifférent à son propre sort. Sibylle avait parlé de chevaux, de montagnes, d'une autre vie. Elle avait parlé de cet amour des chevaux qu'elle avait toujours eu et que Samuel aussi avait eu si longtemps en partage avec elle, même si depuis un an ou deux, c'était un peu passé, c'est vrai. Mais les chevaux pourraient l'aider à reprendre goût à la vie, à comprendre des choses qui semblaient ne plus le toucher ou le concerner. Elle voulait qu'il sache prendre le temps de regarder un ciel de nuit, de s'émerveiller devant une montagne. Elle voulait qu'il sache respirer et souffler, parce qu'elle voulait qu'il entende comment on pense par le souffle et que c'est par lui que la vie circule en nous. Et puis elle avait regardé Benoît debout, trépignant, s'agitant, en haussant les épaules, comme s'il était pris d'un rire qu'il n'aurait pas su contrôler alors qu'il ne riait pas. Et puis se calmant, passant sa main sur son crâne dégarni, grattant sa tête dans un geste qui se voulait éloquent, comme ça, au milieu du salon, il avait murmuré « oui ». Et puis il avait traversé la pièce avant d'entrer dans la cuisine et de dire avec une voix si forte et si consciente d'elle-même, de sa puissance, de sa cruauté à ce moment-là, « ma pauvre chérie, tu veux te barrer, je ne sais pas où avec ton fils, faire du cheval pendant des mois ?» C'est ça. Tu n'as jamais eu le sens des réalités. Si tu veux mon avis, c'est pour ça que tu t'es toujours planté, que t'as jamais été foutu de rien finir de ce que t'avais commencé. Pour ça que tu finiras toute seule et sans aucune perspective de rien. Ton fils fait des conneries et toi, au lieu de le foutre en pension avec des gens qui sauront lui tenir la bride, eh bien non, madame veut lui donner le goût de l'air libre et partir. Je ne suis pas sûr d'avoir compris. Tu veux faire quoi ? Larguer ton boulot, partir comme ça, on taille la route, on brave tous les dangers. Et comment tu comptes faire? Tu n'as pas un sou devant toi. Et regarde-moi cet appart. Tu n'es même pas foutu de changer un robinet, c'est insupportable, ce putain de robinet qui fuit. Et Samuel se souvient de son père disparaissant dans la cuisine, du coup qu'il avait donné contre le robinet, de sa mère se levant et se mettant à hurler furieuse. « Benoît, tu ne t'occupes pas de ça, tu laisses ça tout de suite. Je n'ai pas besoin de toi, j'ai besoin que tu t'occupes de ton fils, que tu comprennes ce que je te dis. Alors maintenant, tu laisses ce putain de robinet et tu reviens !» Et il était revenu, oui, lentement, calmement. Il était revenu, mais il ne s'était pas assis. « Comment tu comptes faire? L'argent? Comment tu vas payer ?»« Je vends la maison de Bourgogne. »« La maison de ton père? Tu avais toujours juré que tu ne la vendrais jamais. Je la vends. »« Ah bon ?» Et toi, Samuel, tu as envie de partir avec elle ? Il n'avait pas répondu. Il avait envie de se lever, de fuir, de crier ou de s'effondrer, ce qui aurait été la même chose. Il voulait surtout que tout s'arrête et avait compris qu'il n'aurait que cette alternative, partir 3 mois dans la montagne avec sa mère, à cheval, ou alors finir dans un pensionnat dont il avait déjà entendu parler plusieurs fois par son père. Samuel était resté sans voix, inerte. Il avait vu comment sa mère et son père allaient encore se préparer à un combat dont il serait l'enjeu. Ça n'avait pas traîné. Son père tout de suite qui se reprend, qui dit « Ok, très bien. On va jamais contre la volonté de la mère. De toute façon, dans ce pays, les juges donnent toujours raison aux femmes. Alors autant s'y faire. Mais je te préviens, Samuel, où que vous soyez, si jamais la moindre chose se passe mal, je veux le savoir. Ok ?» 1 mois plus tard, retrouvons nos cavaliers en pleine aventure. Samuel et Sibylle sont régulièrement invités à profiter de l'hospitalité kirghize. Alors que Sibylle, tournée vers les autres, apprécie toutes ses rencontres, Samuel demeure fermé comme une huître et mutique. Tandis que les deux cavaliers sont descendus dans la vallée pour se ravitailler, Sibylle confie son cheval à son fils le temps de faire quelques achats. Mais une fois seul, à l'approche d'un jeune Kirghiz, Samuel est envahi par une angoisse grandissante. Maintenant un type déboule, un minuscule poste de radio collé sur l'oreille, il approche et lui sourit. Samuel peut sentir son haleine alcoolisée. Le gars caresse l'encolure de Starman et sourit de toutes ses dents jaunes. Il regarde Samuel droit dans les yeux et parle très fort. Il gueule presque. Samuel ne sait pas si l'autre lui parle en russe ou en kirghize. L'autre doit lui demander quelque chose. Il attend sans doute une réponse, mais son attente est ponctuée de grands rires. Sa bouche s'ouvre grand et tout son visage semble se plier, se déplier, puis reprendre son air interrogatif quand il replonge ses yeux dans ceux de Samuel. Mais Samuel, lui, du haut de sa monture, a du mal à se pencher vers le garçon, au moins pour répondre à son regard. Samuel fixe la porte par laquelle sa mère est entrée dans le magasin. Il espère qu'elle va sortir bientôt. Qu'est-ce qu'elle peut foutre, putain ? Je suis sûr qu'elle est encore en train de raconter sa vie. Et il sent monter l'impatience et la colère. L'idée lui vient qu'il pourrait donner un coup de talon à son cheval pour partir quelques mètres plus loin, mais il ne peut pas laisser la monture de sa mère, il doit rester. Alors il reste, détourne le regard, fait comme s'il n'entendait pas le type qui l'interpelle. Maintenant, le gars tape avec la paume de sa main sur le cheval, mais Samuel ne répond pas. Tout ça le rend fébrile, il le sait. Il ne l'a jamais vraiment dit à personne, mais quelque chose en lui le dérange à l'idée de regarder dans les yeux des gens dont il ne comprend ni la langue ni les usages. Là, le type le regarde et Samuel n'ose pas avouer qu'il aimerait lui balancer un coup coup de pied dans la gueule, qu'il aimerait que l'autre disparaisse, qu'il dégage, parce qu'il est musulman. Mais qu'est-ce que c'est un musulman ? Pour lui, des types étranges, menaçants. Il a entendu des théories qui lui font peur. Il paraît qu'on finira tous musulmans, qui font des enfants pour nous envahir, mais il n'en sait rien. Il sait qu'il a peur des autres, mais il n'arrive pas à nommer la peur. Et musulman, ce mot devient pour lui le nom de la terreur, parce qu'il a peur des attentats, qu'il a peur des images qu'il voit des banlieues. Lui qui n'y a jamais foutu les pieds, lui qui vit dans un monde où les musulmans ne sont que des ombres dans les supermarchés et des silhouettes à la télévision ou dans la rue, qui le frôle, respire le même air que lui, mais avec qui il n'a jamais parlé. Des gens à qui il pourrait demander sa route, un renseignement, avec qui il pourrait partager un moment, comme s'il avait peur de comprendre qu'il y a des femmes et des hommes derrière ce masque. Le nom qui effraie est aussi celui qui rassure. Il donne un lieu où jeter tout ce qui nous oppresse et nous terrorise. Samuel a besoin de savoir d'où vient sa peur, lui qui ne savait même pas qu'on peut être musulman sans être arabe, lui qui n'imaginait pas qu'on puisse être arabe sans vivre en banlieue, lui qui n'avait jamais parlé à des gens qui ne lui ressemblaient pas, lui qui avait réduit l'image du mal à deux habits cachant le visage et le corps dans un vêtement noir, comme si le mal, s'il existe, devait se tenir pareillement sous le masque de Dark Vador et le voile de la femme en niqab. Lui qui invente une France dans laquelle il pourrait se sentir hors du danger de vivre, hors du regard des autres, hors du champ des déchirures de ses parents, loin du regard des filles dont il a peur. Lui qui se sait plein d'a priori et se moque de les éprouver si profondément. Au contraire, il s'y réfugie, s'y construit un monde à la mesure de son angoisse, où les choses deviennent claires et simples. Lui, ce qu'il veut, c'est juste ne plus éprouver la peur.
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
80 beaux chevaux remontent la rive en tirant ici haut le nez des bateaux. 80 beaux chevaux charrient sur le fleuve. Entre des chalands, marie les ballots. Du sel et du nougat, du ciment, de l'huile. Et pour vendre au marché, du poisson séché, du miel et du tabac, de la soie qui brille, pour la foire de Beaucaire. Des tonneaux de bière. Des mouettes à leur trousse, les beaux chevaux à l'heure d'avant la vapeur. Ils vont le long des blés, leur vie n'est pas douce. L'orage les secoue, ils baissent le cou. Du sel et du nougat, du ciment, de l'huile. Et pour vendre au marché, du poisson séché, du miel et du tabac, de la soie qui brille, pour la foire de Beaucaire. Des tonneaux de bière. Bateaux qu'ils traînent, tout seuls avanceront, vapeur et charbon. Que la boue du chemin oubliera leur peine. Et le concert si beau de tous leurs sabots. Les hommes vont toujours où la vie les pousse, contre tous les courants, plus loin, plus avant, sur leurs traces. baisse le cou.
Peu à peu, le voyage invente des liens inédits entre les compagnons de route. Un mois et demi après leur départ de Bordeaux, Samuel et Sybille se redécouvrent sous un jour nouveau. Le caractère physique de leur itinérance crée entre eux une complicité silencieuse, faite d'impératifs vitaux et de soins apportés à leurs chevaux, baptisés Starman et Sidious par Samuel. Et lorsque vient le soir, nos aventuriers, enfin libérés des contraintes de la journée, se lancent dans une dernière course folle. Ce soir, comme tous les soirs, ils regardent le soleil qui descend, les montagnes, l'horizon. Ils ont pris la belle habitude, selon l'endroit où ils se trouvent, s'il n'y a pas trop d'obstacles, si les chevaux ne sont pas trop épuisés, si le paysage s'ouvre devant eux et déroule un long tapis de terre ou d'herbe, n'attendant qu'un signal, un cri, un sifflement, oui, presque tous les soirs. Alors qu'ils vont bientôt s'arrêter pour bivouaquer, ils ont pris l'habitude de s'élancer et de faire la course sur quelques centaines de mètres aller-retour, chevauchant accru, profitant de l'effet de surprise, le temps de lancer un coup d'œil en arrière et de voir comment l'autre réagit, s'il bondit sur son cheval et s'élance à son tour, ou s'il prend un temps trop long, s'il refuse de partir, de jouer le jeu, ce qui n'est encore jamais arrivé, non. Pas une seule fois, que ce soit Sybille qui provoque le jeu ou Samuel qui le relance. Risquer ses dernières forces de la journée dans ce pari inutile les amuse, parce que c'est un jeu qui finit de briser les corps, de détendre l'esprit, de rompre toutes les digues de la fatigue. Alors on se lance à corps perdu, le corps penché sur le cou du cheval, les jambes plaquées contre les flancs qui s'agitent et les muscles qui roulent, et les chevaux comprennent, et s'élancent en fendant le vent, la sueur coulant dans le dos et glissant dans les cheveux, sur le front, aveuglant les yeux, ruisselant sur la poitrine, la sueur et la fatigue, l'humus de l'odeur humaine, salée, âcre, qui se mêle à celle des chevaux, la crinière et la poussière qui dégagent cette odeur et cette chaleur de l'animal, et les vibrations de son corps, sa vitesse, sa fougue et sa force, qui résonnent dans les bruits des sabots et des fers. Claquement, martèlement, roulement sec, frappé, rythmé, toujours avec le même son syncopé, plus ou moins rapide, plus ou moins fort, jamais défaillant, les chevaux libérant toute leur énergie et cette puissance prête à jaillir alors qu'on la croit à sa limite, mais non. Après une journée où ils avaient grimpé, trotté, ça repart. Un coup de talon, un geste électrisant tout le corps, les chevaux partageant l'excitation aussi entre eux. Le défi devient le leur, ça dure ce que ça dure, c'est court, quelques centaines de mètres avant de retomber, de s'essouffler, de se calmer, humains et chevaux, de se dire que c'est fini, ça finit, on finit par s'arrêter, oui. Et même ça est difficile, souffler, retrouver son rythme, sa respiration. Tous les soirs ou presque, ils s'autorisent cette course folle et ne disent rien de plus après. Parfois ils rient sans trop savoir pourquoi, sans raison. Et puis le rire se tarit au moment où ils sortent les gamelles pour dîner. Les chevaux aussi éprouvent longtemps ce moment. Avançons sur la piste de nos cavaliers émérites. Après un passage difficile, nos cavaliers épuisés trouvent une merveilleuse récompense, un lac de montagne signalé dans tous les guides. L'appel de l'eau est irrésistible et la baignade de Sybille a tout d'un baptême. Samuel semble voir sa mère pour la première fois. Ce qu'ils voient, Sybille et Samuel, c'est qu'en arrivant près du lac, celui-ci n'a plus cette teinte bleu foncé, presque noire, qu'ils avaient vue de là-haut, mais qu'il est doré, comme si le soleil s'y reflétait, que le lac lui-même était fait de la lumière du soleil et que l'eau y était devenue incandescente. Ils avancent calmement vers le lac, et là, Sybille ne se contente pas de descendre de Sidious, elle retire ses sacoches, la selle, tout, et puis elle s'élance et remonte sur le cheval, se penche vers lui et attrape sa crinière, se colle à son encolure. Elle embrasse son cheval et lui parle à l'oreille. « Vas-y, mon beau, vas-y. » alors le cheval avance et entre calmement dans l'eau, doucement. Tous les deux entrent, sans aucune peur. Lorsque l'eau lui arrive aux chevilles, Sibylle pousse un cri et dans un éclat de rire, elle jure. Oh mon Dieu, ce que c'est froid! Mais elle rit, elle avance et bientôt le cheval n'a plus pied. Ça dure quelques minutes. Il nage tranquillement, comme s'il le faisait très souvent, sans inquiétude. Et Sibylle s'allonge sur le dos de son cheval. Elle est habillée et se met à rire d'un rire profond, sans retenue. Une libération qui se propage sur le rivage, dans le regard de Samuel. Cette fois, il reste sidéré et commence à rire lui aussi. Un moment, tout est oublié de la veille et il est prêt à penser que sa mère est imprévisible et drôle, folle peut-être, mais qu'au fond, c'est ce qui fait d'elle quelqu'un d'unique, d'inimitable. Il se demande combien de ses copains pourraient se retrouver dans sa situation, partir si loin avec leur mère et la voir nager tout habillée, crado comme une punk à chien, morte de rire sur le dos d'un cheval en train de nager. Et puis à ce moment-là, il serait prêt à penser que sa mère est une femme d'un courage extraordinaire, qu'elle tient tête à tout le monde, même si le plus souvent elle donne l'impression de s'effondrer à chaque secousse de la vie. Mais en fait, non, elle tient bon. Elle continue toujours. Elle tombe et se relève, et elle reprend, infatigable à chaque fois. En ce moment, il la regarde et trouve qu'elle est quand même quelqu'un d'invraisemblable, surtout lorsqu'elle revient et qu'elle glisse dans l'eau, laissant le cheval revenir de lui-même sur la plage et commencer à s'y rouler, hennissant, invitant Starman à suivre son exemple. Sibylle nage encore quelques brasses et puis sort de l'eau, balance ses vêtements trempés sur l'herbe. Samuel la regarde en sous-vêtements, l'eau ruisselle sur son corps et sans attendre, elle retourne dans l'eau et plonge, disparaît avant de réapparaître plusieurs mètres plus loin. Oui, à ce moment-là, Samuel serait prêt à reconnaître qu'il est parfois impressionné par sa mère, que d'une certaine manière, il a de l'admiration pour elle. Là, maintenant, pour ce qu'elle est, ce qu'elle fait, il serait prêt aussi à croire qu'elle l'aime assez pour avoir sacrifié une maison à laquelle elle tenait, en Bourgogne. Et cette idée lui traverse l'esprit que tout ce qu'elle fait, c'est pour l'aider lui. C'est par amour pour lui. Et cet amour, soudain, il sent que c'est toute sa motivation, toute sa raison à elle d'être ici. Alors, à ce moment-là, il est au bord de reconnaître qu'il en est bouleversé. Il pourrait, oui, s'il n'avait pas si peur d'avouer qu'il aime sa mère. S'il n'était pas effrayé à l'idée de l'aimer. Lui qui sait si bien qu'aimer et accepter est plus difficile que haïr et rejeter. C'est à peine s'il reconnaît cette femme dont le visage se colore de taches de rousseur dès que le soleil pointe son nez. Ses cheveux ont déjà beaucoup repoussé depuis qu'on a quitté Bordeaux, comme les siens d'ailleurs. Et il n'ose pas se l'avouer, mais à ce moment-là, il la trouve touchante et belle, drôle aussi. Il s'étonne même de voir cette femme qui n'existe pas dans son quotidien. Mais où est la femme qui l'emmerde à Bordeaux? Cette femme triste et trop anxieuse le reste du temps? Il ne comprend pas. Quelque chose est en train de soulever sa mère et de l'emmener vers une zone d'elle-même dont il ignore tout. Et ça, Samuel en est troublé. Il la regarde avec l'envie de lui sourire, et peut-être même que depuis tout à l'heure, il lui sourit vraiment, comme un fils peut sourire à sa mère, avec pudeur et amour, avec une forme de tendresse et de complicité qui se passe de mots, parce qu'elle les contient tous, dans le secret d'un sentiment qui les dépasse. Un peu plus tard, Sibylle et Samuel rencontrent d'autres voyageurs et leur présence vient troubler ce bonheur encore fragile. Accueillis dans la yourte du nomade Toktogul, Samuel et Sibylle sont bientôt rejoints par deux randonneurs français, Arnaud et Stéphane. Entre Sibylle et Arnaud, un jeu de séduction s'installe. Lorsque le repas outrageusement arrosé à la vodka s'achève, on quitte la yourte commune et chacun rejoint sa tente, excepté Arnaud et Sibylle, qui partent ensemble, joyeux et titubants. Pour la première fois, Sibylle pense à elle avant de se préoccuper de Samuel. Pour la première fois depuis longtemps, elle s'abandonne au plaisir entre les bras d'un homme. Mais Samuel, qui voit sa mère lui échapper, est en proie à une jalousie qui le déborde. Autour de lui, dehors, des craquements, des bruits dont il ne perçoit pas l'origine, des bruits qu'il ne comprend pas, peut-être des animaux, peut-être quelqu'un. Et puis il faut du temps pour entendre, c'est-à-dire pour percevoir dans le silence ces autres bruits, ces souffles qui viennent d'il ne sait pas où, mais qui deviennent de plus en plus forts, de plus en plus présents, des souffles, des râles. Oui, il comprend et perçoit de plus en plus distinctement ces sens soudains aux aguets, des halètements, des mouvements saccadés, des corps, des cris qu'on étouffe, une voix, des gémissements, des plaintes et des soupirs. Non, pas des plaintes, plutôt le souffle qui va chercher loin en lui-même, qui tremble, s'émeut et qui parfois s'affole. Samuel comprend. Sa mère, il entend sa mère en train de faire l'amour quelque part là, très près, et c'est comme une déflagration dans sa tête. Comme un cri en lui qui le soulève et le pousse hors de la tente d'un seul coup. Un mouvement rapide et brutal qui le surprend lui-même. Son corps se détend comme une arme de précision. Son corps recroquevillé et fossilisé il y a encore quelques minutes et qui s'élance et cherche. Alors Samuel est debout. Il va marcher près des tentes. Il veut savoir où elle est. Pas sûr encore qu'il ne va pas gueuler et jeter des coups de pied dans la tente. L'idée ne lui vient pas qu'on pourrait lui dire qu'il n'a aucun droit sur ce que fait sa mère. Elle ne lui doit rien. Il n'est pas un mari. Il n'a pas à se comporter comme un cocu possessif et jaloux. Mais sa blessure à lui, c'est elle qui l'entend. Pas le ridicule de sa situation, pas l'injustice qu'il peut faire à sa mère, pas cette idiotie qu'il commet en se levant et en cherchant à rôder près des tentes, et il trouve. Il entend, devant l'une des deux tentes, les souffles et les mouvements, les froissements. Un instant, il croit que ce sont des cris de douleur, et c'est sa douleur à lui qui explose dans sa poitrine quand il comprend que sa mère est en train de jouir, et qu'elle parle, qu'elle demande plus encore, qu'elle en veut plus encore. Et il entend aussi l'homme qui lui promet de la faire jouir. Et alors Samuel s'éloigne, fou de rage. Il veut s'enfuir, il panique. Il ne sait pas, il est en colère contre le mal qu'il éprouve, contre sa haine. Il court, il fait chaque chose avec rage, avec vitesse, avec colère. Il se fout de savoir si on l'entend, si on l'écoute. Il se fout de savoir si quelqu'un essaiera ou non de l'empêcher. Les uns dorment, les autres, les deux autres, ces deux-là qui font l'amour ont autre chose à faire que de le retenir quand il va courir avec sa selle et quelques affaires, quand il se balance au-dessus du dos de Starman qui ne comprend pas, s'affole, trépigne. Mais ces hennissements, Samuel pense bien que sa mère ne les entendra pas. Samuel est fou et avec son cheval, il s'élance dans la nuit. Personne n'entendra rien parce que tout le monde s'en fout. Samuel est comme un souffle imprévisible et sauvage, comme une ombre qu'on oublie parce qu'invisible, muette, trop secrète dans les ténèbres qui s'ouvrent. Affolée par la disparition de son fils, Sibyl s'élance à sa recherche au mépris du danger. Il est 5 heures du matin lorsque Sibyl découvre la fuite de Samuel. Sans réfléchir davantage, elle selle son cheval à toute vitesse et quitte la plaine pour explorer les reliefs escarpés. En sueur et dévorée par l'angoisse, elle le guette dans l'ombre des fourrés depuis 2 heures, lorsqu'elle est soudainement troublée par un terrible gémissement. C'est un souffle puissant, un râle. Sibyl se glace parce qu'elle comprend soudain ce qu'elle entend. Le cheval, c'est un cheval qui est en train de geindre. Oui, comme s'il pleurait, il gémit, il essaie de crier, d'appeler, et sa plainte frappe contre les roches grises et se perd dans les gouffres, se dilue dans le ciel. Sibyl est descendue de cheval. Elle avance et les bruits se précisent. Un souffle, un gémissement sans fin, une plainte longue. Elle essaie de rester calme, de ne pas s'affoler, de ne pas hurler encore le prénom de Samuel. Calme-toi et réfléchis, réfléchis, se répète-t-elle. Et elle se demande d'où ça peut provenir. Il faut rester calme. Reste calme, calme, à l'écoute, pour comprendre d'où le son peut venir. Et puis soudain, enfin, c'est là. Un trou énorme, une coulée de pierre, de la caillasse grise, et au fond de la brèche, le corps allongé du cheval. Elle se précipite pour voir, se tient au bord, et tout au fond, à l'ombre des roches qui créent une avancée dans un repli, les 4 jambes, longues comme des pattes d'araignée qui essaient de bouger, comme si le cheval tentait de courir ou de nager, de s'enfuir, comme on s'enfuit dans un rêve, et son cou qui n'en finit pas, et n'essaie même pas, lui, de se redresser. La tête est loin en arrière, on ne la voit pas, elle est tombée à la renverse. Alors Sibyl laisse son cheval, elle ne tente même pas de l'attacher, elle sait qu'il ne partira pas. Vite, elle court, dégringole, tombe, se laisse glisser, et le lit de cailloux avec elle qui suit s'affaisse, et bientôt la voilà tout près du cheval. Starman, le cheval de Samuel est là, tremblant, le corps recouvert de sueur et de poussière, toute la poussière qu'il a dû soulever en glissant dans ce trou. Est-ce qu'il s'est cassé une jambe, fracturé le dos, elle ne sait pas. Et Samuel, où est Samuel? Il ne doit pas être loin. Ils sont tombés. Le cheval n'arrive pas à se redresser. Qu'est-ce qui a pu se passer? Ils ont dû glisser. Mais où est Samuel? Où? Où est Samuel? Et est-ce que Samuel est blessé? Parti? Est-ce qu'il aurait laissé son cheval à l'agonie ou est-ce qu'il est reparti vers le campement? Et à pied, comment il va faire? Et tout en pensant à son fils, elle caresse l'encolure de Starman. Il a l'air de souffrir. Elle va chercher sa lourde tête qui est tombée en arrière et elle essaie de la redresser, de la mettre en avant, tournée vers l'encolure, vers elle aussi. Le cheval ne résiste pas, il se laisse faire. Ses grandes dents jaunes sortent parce que les lèvres sont retroussées, de la bave mouille la main de Sibyl. Il pousse des gémissements horribles, son haleine pue d'une odeur fétide et son souffle est chaud, puissant. Ses naseaux s'ouvrent et se ferment comme des cœurs qui cherchent le sang pour continuer à battre. Sibyl repose la tête si lourde, si fatiguée, si fragile, car le crâne seul semble solide. Le cou est sans force, mou. Elle le regarde. Starman a les yeux ouverts et lui aussi la regarde. Dans l'œil bleu de Starman, elle voit son reflet déformé, comme dans les miroirs anciens qu'on trouve dans la peinture hollandaise. Ces miroirs qui déforment les corps, les allongent, les étirent d'un côté et les réduisent à rien de l'autre. L'œil se voile, quelque chose a terni, quelque chose de gris. Et pourtant elle se voit dans l'œil. Et ce qu'elle voit aussi derrière son image à elle, c'est le cheval qui lui demande pourquoi il va mourir ici, pourquoi il souffre et ne sent plus ses membres. Elle ne sait pas quoi faire. Elle ne sait pas, mais soudain, elle crève d'envie de pleurer parce qu'elle ne peut rien pour aider cet animal dont la poitrine se soulève dans de grands mouvements laborieux, comme s'il s'agissait pour lui de bien faire, d'aller jusqu'à la mort avec lenteur et application, douloureusement, au prix de terribles efforts. Et puis soudain, plus haut, elle entend son cheval qui s'agite. Sidious la regarde, mais elle entend qu'il hennit, il piétine, apeuré, alors elle le sent, l'entend, et elle commence à remonter péniblement. Plus tard, un brouillard épais bouche des passages entiers. Il pleut. Sidious, effrayé, s'est enfui. Elle est seule maintenant. Elle pense au froid qui la paralyse. Elle pense qu'on va la retrouver morte dans 2 ou 3 jours. Pourquoi faut-il que Benoît, son ex-mari, ait eu raison? Oui, elle a été incapable de sauver son fils de lui-même. Mais elle ne veut pas se résigner. L'image de Benoît, ce père qui n'a jamais rien fait pour son fils, la remplit de haine et de colère. Ça dure 1 seconde, un peu moins, oui. Elle avait raison pour Samuel quand elle pensait que la haine se retourne toujours contre soi. Car à cet instant, la haine qu'elle éprouve pour Benoît, son visage triomphant, son sourire méprisant, 1 seconde, elle le voit. Il est face à elle. Et c'est le moment où elle n'est pas entièrement dans son geste. La seconde d'inattention, son pied chasse sur le côté, entraînant la jambe, le poids du buste. Elle essaie de se retenir par les mains, mais elle ne peut rien saisir. Le corps entraîne le corps, la chute entraîne la chute. Et tout mouvement qui voudrait la retenir la précipite dans le brouillard. Sur les rochers à pic, elle n'en finit pas de heurter des pierres. Son sang se mêle aux rochers, à la glace. Dans un instant, elle aura fait une chute de plus de 8 mètres. Dans un instant, elle sera brisée, presque morte. Et dans un instant, le monde autour d'elle aura complètement disparu. Dix jours après l'accident, découvrons la métamorphose de Samuel. Après sa chute sévère, Sybille est conduite vers l'hôpital le plus proche pour des soins intensifs. À la demande de Samuel, Benoît, son père, le rejoint. Mais lorsqu'il débarque au beau milieu d'un tournoi de Oulak Tartiche, un sport local de tradition guerrière, il peine à reconnaître son fils, tant sa transformation est saisissante. Le voyage prend alors toute sa dimension initiatique. L'adolescent d'hier, peureux et replié sur lui-même, a disparu. Et lorsque Benoît regarde son fils, il ne voit plus un enfant, mais un homme qui n'a plus vraiment besoin de lui. Derrière la barrière que forment les gens, une 20aine de chevaux et de cavaliers courent, se bousculent. Benoît approche. Il essaie de passer au premier rang pour mieux voir de quoi il s'agit. Il comprend vite. Il a lu quelque chose là-dessus, ce jeu où les cavaliers s'écharpent pour récupérer le corps décapité d'une chèvre ou d'un bouc qu'il va s'agir d'aller déposer dans un cercle. Benoît avait lu que ce jeu pouvait être violent et en effet il l'est. Les cavaliers sont des hommes jeunes, ils se jettent les uns sur les autres avec une frénésie et une rage qui le surprend. Le public, lui, rit, crie, commente. Benoît regarde et reste stupéfait par la violence du jeu, par sa force aussi, sa vitesse. Il voit un moment la carcasse du bouc décapité qui retombe dans la poussière avant d'être envoyé en l'air par des coups de sabot. Et alors Benoît a le temps de l'apercevoir. D'abord, il n'en est pas sûr, il croit qu'il se trompe. Ce ne peut pas être lui, il se dit. Celui-ci est trop bronzé, son teint presque noir. Et puis il est trop maigre, trop fin. Et puis il a l'air si dur, si sévère, si concentré aussi. Et il est si agile et si décidé. Et puis ses fringues sont les mêmes que celles des autres cavaliers. De vieilles fripes occidentales arrivées là, on ne sait pas comment. T-shirt, jeans, survêtements, casquettes. Et pourtant il voit bien que c'est lui. Que Samuel donne autant de coups qu'il en reçoit. Qu'il ne joue pas pour faire de la figuration et qu'il est entièrement dans le jeu. Qu'il s'y donne à fond. Comment c'est possible? Benoît soudain stupéfait. Son fils? Est-ce que c'est son fils? Ce fils à la fois boudeur et réservé, grande gueule et timide, peureux et vindicatif, solitaire et enfermé, est-ce que c'est lui qui galope parmi les autres? Lui qui gueule avec eux et prend des coups, qui les rend, qui réussit à saisir d'une poigne vigoureuse le corps ensanglanté de la bête et va chercher à galoper jusqu'au poteau, des vieux pneus entassés, pour aller vers le cercle avant d'être attrapé, et qu'on lui arrache la dépouille du bouc dont les os craquent, explosent dans la carcasse qui ne ressemble plus à rien de solide, la carcasse comme un sac d'eau trempé de sang, une bouillie de chair ramollie, et lui, là-dedans, pourtant il a l'air de tenir sa place, de résister, d'être l'un d'eux. Benoît n'en revient pas. Il repense au visage qu'il a vu il y a une semaine sur Skype, ce garçon qui essayait de lui raconter que tout était de sa faute, qu'à cause de lui, sa mère allait mourir, qu'il avait tué sa mère. Il avait raconté l'avoir trouvée dans la montagne, pas très loin de là où il était, qu'il avait réussi à repartir avec elle sur son dos, qu'il avait eu de la chance parce que des gens les avaient aidés, des Français qui étaient là, deux types, et puis les nomades qui étaient venus. Et alors, ils avaient pu les sauver, les réchauffer, changer leurs vêtements, les couvrir avec des peaux de mouton. Et ils avaient fait venir une voiture et on avait filé vers Hoche parce que Sibyl était à deux doigts de la mort. Et lui, Samuel, il était resté chez les nomades. Il avait dormi deux jours, puis était resté avec eux. Les Français lui avaient expliqué « Ta mère est dans le coma, son pronostic vital est engagé, tu devrais prévenir ton père. » Et il avait dit oui. Il l'avait fait, mais il était resté vivre chez Toctogul et il avait voulu les remercier et dire qu'il avait été lâche et idiot et qu'il ne savait pas comment on peut demander le pardon. Il n'avait rien dit. Il avait commencé à utiliser les quelques mots de russe qu'il savait. Tout le monde avait été surpris de l'entendre parler soudain si bien le russe. Car oui, tout à coup, même à lui, ça apparaissait. Il n'était pas l'ignorant qu'il pensait être. Et comme on lui proposait de rester le temps qu'il faudrait pour que sa mère se rétablisse, il avait dit oui. Il avait répété les quelques mots kirghizes qu'on lui avait appris. Il en avait appris d'autres. Il avait voulu aider, et il aidait. Il faisait le berger. Il aidait les femmes à préparer l'alcool local, le koumis et les repas. Et il attendait son père qui n'en revient pas de ce qu'il voit. Alors quand la partie s'achève, que Benoît voit son garçon arriver vers lui, le visage et les mains recouverts de sang, le sang du bouc, le sang de ses adversaires, mais aussi peut-être le sien, il ne sait plus comment lui parler. Tout à coup, il ne trouve pas les mots. Il n'ose plus prendre le même ton que lorsqu'il y a encore quelques mois, il lâchait sans réfléchir à Montparnasse, quand il venait le chercher à la gare ou alors chez lui, quand Samuel venait directement « Alors mon chaton ?» Non, il n'a pas un chaton devant lui. Et tout à coup, Benoît a l'impression qu'une page vient de se tourner et qu'il ne l'avait pas vu venir. Devant lui, il y a un garçon qui lui semble plus grand, plus affûté, qui le regarde avec un regard plus lumineux et fixe que ce qu'il avait jamais vu chez lui. Et il se demande si ce garçon-là est bien son fils. Il ne voit rien de louvoyant ou de timide. Il voit un garçon qui le regarde et qui n'attend rien de lui. Il s'étonne. Pour la première fois de sa vie, il voit que son fils ne le regarde pas avec admiration. Il voit que son fils est ailleurs. Et que non, finalement, on n'est peut-être pas définitivement ce que l'on est.
Une baleine, c'est elle qui sait que mes pieds puent. c'est elle qui sait comment je suis nu. Mais quand je suis malade, elle est la reine du suppositoire. Et dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. Oh, dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. L'amour, je trouve ça toujours dans les yeux. Ma mère, il y a toujours une lumière.
Guillaume Gallienne sur France Inter.
Un peu de lecture, ça peut pas faire de mal.
Mais pour achever sa transformation, Samuel doit aussi laisser parler sa sensibilité. Arrivé à l'hôpital avec Benoît, Samuel entre seul dans la chambre de Sibylle, à demi consciente, tandis que Benoît, l'éternel absent, se dérobe encore une fois. Ému par la fragilité de Sibylle, Samuel laisse enfin parler sa tendresse filiale. Il décide alors de partager avec sa mère ce qu'il a de plus intime et précieux, sa musique. Délesté de sa haine, Samuel peut enfin laisser place à l'amour. Sibylle est loin. Des marques profondes entourent ses yeux, la chair tuméfiée. Il reste là, très près d'elle. Il veut la toucher mais n'ose pas. Il entend juste son souffle, ce léger sifflement qui sort de sa bouche ou de son nez. Léger, léger. Mais qui lui va droit au cœur. Et il se dit que bientôt il va oser poser sa main sur la sienne, mais pas encore, pas encore. Il va se contenter de passer ses doigts tout près de son visage. Il va faire comme s'il caressait ses joues, ses yeux, sa bouche, mais sans la toucher. Il n'ose pas encore. Maintenant, il sort l'appareil de son sac. Il se dit que ce n'est pas facile, mais en faisant bien attention, il pourra. Et de fait, voilà, il met les écouteurs à sa mère. Elle ne réagit pas. Il lui reste quelques piles. Il va les laisser ici. Il prend l'appareil et appuie sur play. Il fait attention à ce que le son ne soit pas trop fort. Et enfin, il regarde sa mère. Poser ses doigts sur les siens. Elle ne bouge pas. C'est lui qui tremble et s'émeut. Et elle, alors, laisse s'infiltrer la musique dans son corps. La voix de Bowie dans son sang. Une chanson qui parle de devenir roi et de devenir reine, de nager comme les dauphins, même si ce n'est que pour un jour. Une chanson qui parle de se maintenir debout, même si c'est pour un jour. D'être ensemble des héros pour un jour. Et Samuel ne sait pas pourquoi il le dit, mais il le dit en murmurant. On finira notre voyage, maman. On va continuer. On le fera. Il faut qu'on continue. Il faut, oui, tous les deux, toi et moi. Je te promets qu'on reviendra et qu'on ira jusqu'au bout. On reviendra bientôt, tu verras. Je te le promets. On le fera tous les deux. On finira notre voyage.
Ça peut pas faire de mal.
C'est
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia avec à la technique Bruno Mourlan. Merci à eux, merci aussi à celles qui ont préparé cette émission, Fanny Leroy, Estelle Gap et Claire Tesser. Bonne soirée et à la semaine prochaine.